Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle séance de cours sur la période holocène. Cette semaine, je vais vous parler des variations des précipitations durant l'holocène, et en particulier ce que l'on appelle communément la période humide africaine. Alors, dans un précédent cours, je vous avais parlé des modélisations pour cette période, et notamment le fait qu'il y avait une perturbation à l'époque, au début de l'Holocène, liée à l'insolation qui avait changé à cause des paramètres en fait, de l'orbite terrestre, notamment un maximum d'insolation estivale pendant toute cette période. Et je vous avais montré notamment cette vue qui est représentée ici à gauche sur le fait que lorsqu'on compile les modélisations qui ont été effectuées pour prévoir cette, enfin pour représenter cette période, eh bien on met en évidence un réchauffement à l'échelle mondiale pour toute la zone de l'hémisphère nord. C'est ce qui est montré sur la partie gauche. Ce que je ne vous avais pas montré, c'est la partie droite, en fait, qui représente les variations moyennes des précipitations, qui montre, et ça c'est lié en fait au changement de gradient thermique entre l'océan et le continent, il y a en fait une variation des précipitations, notamment une augmentation, on voit très nettement des augmentations sur le continent africain, sur toute la bande en fait de la zone tropicale, qui va aller jusqu'à la zone asiatique, mais donc un changement des précipitations qui est quelque chose de robuste dans la plupart des modèles, en particulier ceux qui sont compilés dans le cadre des expériences d'intercomparaison entre les modèles dans le cadre du projet PEMIP. Alors, je vous avais montré donc la carte de gauche. Maintenant, nous regardons les précipitations. Et on peut aussi parler de ce qui se passe actuellement dans cette zone. À l'heure actuelle, il y a en fait saisonnièrement une migration de la zone de convergence intertropicale, qui est un peu l'équateur météorologique, notamment en été. Cet équateur météorologique, à cause des changements saisonniers, va migrer en fait vers le nord. C'est ce qui est représenté sur la partie gauche, sur la carte de gauche, qui simplifie les choses, qui montre en fait la situation estivale, avec notamment une basse pression donc au niveau de cette ITCZ, ou zone de convergence intertropicale, et flux de masse d'air venant de l'océan Atlantique vers le continent pour arroser en fait toute cette partie de l'Afrique. Donc c'est quelque chose qui est à la fois présent saisonnièrement et qui était beaucoup plus intense et avec une migration vers le nord pendant cette période du début de l'Holocène, en liaison justement avec ce forçage orbital, ce forçage lié aux variations de l'insolation en connexion avec les grandes variations cycliques que je vous ai mentionnées encore une fois et montrées de la précession des équinoxes. Donc c'est quelque chose qui est très robuste et très dans les modélisations, comme je viens de vous le montrer. Ici, je vous montre une modélisation plus récente en fait que la vue précédente, qui a été réalisé par un des instituts, l'Institut Max Planck de Hambourg, avec un modèle récent, et qui montre globalement la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait une augmentation ici, tout ce qui est... cette carte représente en fait les variations de précipitations exprimées en millimètres par an, avec une zone beaucoup plus arrosée au niveau de tout le Sahel, au niveau de l'Afrique, qui va pratiquement jusqu'à l'Algérie, le Maroc, avec une zone ici en bleu, qui ne va pas jusqu'au nord de l'Afrique dans ces modélisations. C'est quelque chose qui est assez constant dans ces modélisations. Les modèles ne prévoient pas en fait de remonter beaucoup plus au nord de cette zone-là, mais encore une fois, un changement de précipitation qui est très marqué et qui est une constante de ces modélisations perturbées avec les forçages connus pour cette période holocène, notamment les variations de l'insolation. Et dans ces modélisations, on prend en compte aussi les gaz à effet de serre et d'autres forçages encore, comme je vous l'ai montré dans le premier cours. Donc quelque chose qui est très marqué, et ce qu'il faut Aujourd'hui, donc, je reviendrai en fait sur les problèmes et sur la modélisation climatique pour cette période dans le prochain cours. Mais cette semaine, je vais essayer de vous montrer en fait les évidences géologiques et paléoclimatiques que nous avons en fait sur la réalité justement de ce phénomène d'augmentation des précipitations dans cette bande de latitude, notamment au niveau de l'Afrique. C'est quelque chose qui est connu depuis des années. Et qui montre une extension en fait beaucoup plus importante que ce que montrent les simulations climatiques par les modèles, avec des niveaux lacustres qui sont représentés de façon très simplifiée sur cette cartographie au nord de l'équateur, qui étaient toutes beaucoup plus importantes, donc un niveau des lacs beaucoup plus important pendant cette période holocène. Ici, c'est une cartographie des niveaux de lacs vers 9000 ans avant l'actuel. Par rapport au niveau actuel, donc on retrouve de façon très qualitative sur cette carte que les niveaux lacustres étaient beaucoup plus importants, mais comme vous le voyez, ces niveaux lacustres étaient beaucoup plus importants, aussi beaucoup plus au nord de ce que simulent les fameuses modélisations climatiques. Donc nous allons voir que ça va poser quelques problèmes, justement. Il est intéressant de faire cette comparaison données-modèles. Cette semaine, je vais vous montrer en fait toutes les évidences qui sont très impressionnantes de cet épisode pluvieux de ce que l'on appelle, encore une fois, la période humide africaine. Alors, des niveaux de lacs qui ont été mis en évidence, donc là, une cartographie, de façon très impressionnante, ici, des photos, je vous montre quelques photos prises au Mali, par exemple, de certains paléolacs, ici, il s'agit de restes, ce que vous voyez érodés, parce qu'en fait, les mécanismes de l'érosion dans le Sahara ou dans les déserts connexes sont très intenses, et une grande partie de ces dépôts lacustres, en fait, disparaissent chaque année. Ici, vous avez des colonnes stratigraphiques, stratifiées, qui sont des restes qui vont disparaître prochainement de niveaux de lacs, en fait, de sédiments lacs lacustres en plein désert qui sont essentiellement formés de carbonates, ici en plein Mali. Ici, un autre exemple avec un zoom en fait, sur des dépôts lacustres en Libye, avec, on peut distinguer même des coquilles, des niveaux avec d'abondantes coquilles lacustres. Donc des lacs tout à fait bien caractérisés. Ici, un autre exemple en Algérie, avec des sédiments, encore une fois, qui sont en train de s'éroder. Ce sont les seuls restes de lacs qui avaient une extension latérale très importante. Et on voit encore des sédiments qui ont été déposés pendant cette période humide africaine, donc du début de l'Holocène, comme nous allons le voir, avec toute une succession, toute une stratigraphie de sédiments, ici essentiellement carbonatés, et la partie terminale qui correspond en fait à la fin de cette période humide africaine correspond à des dépôts d'évaporites. Ici, il s'agit de gypse pendant cette phase d'assèchement et de disparition de ces lacs qui caractérisent justement cette période humide africaine. Donc, d'autres photos encore. Ici, plus au sud, au niveau du Mali, dans ce cas-là, les évaporites vont jusqu'au dépôt de sel. Ici, il s'agit en particulier de la région du Taoudéni, avec même des mines, des dépôts de sel qui ont été utilisés, utilisés justement pour extraire le sel. Ici, vous avez quelques photos qui ont été prises en fait par une des pionnières en fait du sujet, Nicole Petitmer. Une Française, donc, qui travaillait dans le laboratoire à Aix-Marseille et a pu photographier, justement, ces mines de sel. Vous voyez ici l'extraction du sel manuel, carrément façonné à l'herminette, et transport ensuite de sel à d'autres chameaux pour aller vers Tombouctou, situé plus au sud. Donc, des dépôts, en fait, holocènes, qui sont très caractéristiques et impressionnants. Alors, ces dépôts, eh bien, on peut, d'une part, les cartographier. Ici, c'est une cartographie que l'on doit à une autre pionnière du domaine, qui était aussi une chercheuse installée à Aix-en-Provence, dans le laboratoire où je travaille, le CEREJ. Françoise Gass, qui a beaucoup étudié en particulier les lacs situés à l'est, comme nous le verrons, et ici une cartographie qui compilait les différentes informations sur les lacs que nous avons, que je vous ai mentionnés, ici la zone de Taoudéni, la zone algérienne et le centre Mali. Françoise Gass a pu en plus utiliser, reconstituer une chronologie en fait de ces hauts niveaux lacustres en étudiant des sédiments que l'on pouvait dater. Ici, il s'agit donc directement tiré d'une de ses publications, d'un diagramme qui complète cette cartographie simplifiée avec les zones où il y avait des hauts niveaux lacustres pendant la période holocène, des enregistrements en fonction du temps, donc ici encore une fois les âges qui évoluent de droite à gauche avec la petite flèche temporelle, ici on remonte jusqu'à 40 000 ans, la période holocène, comme je vous l'ai signalé au début et on l'avait vu l'année dernière sur les définitions, commence à 11 600 ans avant le présent, donc c'est la partie tout à fait située à gauche. Donc une reconstitution en fait du niveau des lacs, de certains lacs, qu'il est possible de réaliser en étudiant ces sédiments, ces anciens sédiments. Alors c'est ce qui a été fait par Françoise Gass et d'autres collègues encore, sur notamment certains lacs. Ici on démarre avec le lac Abbé, avec justement ces fluctuations, ces grandes fluctuations. Alors pour la partie holocène, il faut regarder la partie gauche de ce diagramme, ici les hauts niveaux du lac, et qui se termine avec des bas niveaux. Donc une période holocène tout à fait caractérisée par un haut niveau de lac. Donc on retrouve comme ça ces dépôts anciens du lac Abbé. Ici, c'est un autre exemple, le lac Assal, avec des dépôts de carbonate sur des roches volcaniques en plein désert, zone désertique. On aperçoit le lac Assal actuel, un lac salé au fond, mais encore une fois, ces dépôts montrent de façon éloquente que le niveau du lac était beaucoup plus important à l'époque. Toutes ces caractéristiques, ces fluctuations du niveau des lacs africains, en particulier à l'est, a pu être reconstituées à partir d'archives dans certains lacs, notamment, on va voir, le lac Turkana, Tanganyika, etc. Donc vous retrouvez ici, dans une publication qui est relativement ancienne, ces différents enregistrements. Alors, le lac Abbé, justement, qu'avait étudié Françoise Gass, à l'époque, aujourd'hui, est réduit à cette petite partie. Il s'agit d'une photographie, d'une vue satellite qui représente, d'une part, l'état actuel, la géographie actuelle avec le lac Abbé qui est réduit à un petit lac endoréique, c'est-à-dire qui n'a plus d'exutoire et qui continue à s'évaporer, et l'extension, représentée ici en bleu clair, du lac Abbé ou de ce complexe du lac Abbé à l'époque, à peu près vers 10 000 ans avant le présent, où l'on retrouve donc une extension beaucoup plus importante et une connexion avec d'autres lacs qui aujourd'hui sont séparés les uns des autres, mais qui à l'époque étaient reliés avec un niveau beaucoup plus haut pendant cette période humide africaine. Alors, d'autres lacs étaient aussi interconnectés. Je vous ai parlé du lac Turkana. Donc ici, une cartographie un peu plus au sud donc, par rapport au lac Abbé, le lac Turkana, une cartographie qui montre à la fois l'extension du lac Turkana actuel, représenté ici en bleu clair, et l'extension maximale pendant la période humide africaine, qui est représentée en bleu un peu plus sombre. Ce qui était aussi caractéristique, c'est qu'il y avait une connexion entre les différents lacs à l'époque, ce qui est représenté ici sous les formes de flèches, et notamment, il y avait un exutoire vers le Nil, il y avait une connexion directe entre ce lac Turkana de la période humide africaine vers le Nil, et donc un flux vers le Nil qui était à l'époque beaucoup plus important qu'à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il n'y a pas de connexion avec le lac Turkana, mais nous allons voir en fait que le Nil aussi avait un flux, un débit beaucoup plus important à l'époque. Alors, il est possible d'étudier ces différents dépôts du lac Turkana fossile notamment sur les bords, sur ces bords, mais aussi sur la petite île. Il y a à l'heure actuelle au milieu du lac Turkana, enfin au sud du lac Turkana, une petite île appelée île Sud. Ici, vous avez une photographie qui m'a été passée par un collègue, encore une fois, du Cérège d'Aix-en-Provence, Yannick Garcin, qui a étudié les niveaux lacustres récessifs sur cette île. On voit très nettement, puisqu'il y a très peu de végétation, comme vous le voyez, on distingue très bien ces niveaux régressifs. Et ce qui est important pour faire de la reconstitution paléoclimatique, eh bien, c'est de mesurer la hauteur de façon assez précise et, d'autre part, de dater, de faire de la géochronologie en datant ces différents dépôts, en particulier en utilisant le radiocarbone pour dater notamment des coquilles de mollusques lacustres. C'est ce qui a été fait. Donc vous avez ici une représentation de ces niveaux lacustres de l'île Sud en fonction de l'altitude. Et ces datations permettent ensuite de reconstituer la régression du lac au cours du temps pendant la fin de la période humide africaine. Alors, on le verra dans les prochains cours, mais il y a aussi des implications très importantes sur les peuples de l'époque, pour la préhistoire assez récente, au néolithique, comme nous le verrons. Et il est possible aussi, lorsque le lac avait commencé à disparaître, de mettre en évidence des sites archéologiques qui sont aussi datés avec le radiocarbone. Donc nous y reviendrons dans les prochains cours, mais tous les points jaunes ici représentent en fait des données aussi obtenues sur des sites archéologiques. Donc quand les chercheurs font ces datations et les représentent en fait ensuite en tenant compte de l'élévation des prélèvements et les représente sur un diagramme en fonction du temps, donc ici un temps qui évolue depuis un peu plus de l'Holocène, donc là on remonte jusqu'à 14 000 ans, donc l'Holocène commence à peu près vers 12 000 jusqu'à l'actuel, qui est ici, eh bien on voit une évolution tout à fait manifeste de ce niveau du lac Turkana, avec des très hauts niveaux par rapport au niveau actuel, plus de 100 mètres au-dessus du niveau actuel, avec des points noirs qui représentent les différentes évidences, avec des épisodes marqués de régression, puis ensuite de réaugmentation du lac, en particulier un épisode de bas niveau probable vers 8000 ans, nous y reviendrons. Et lorsque le lac s'est asséché partiellement, eh bien, l'homme a pu occuper les lieux, et on verra par la suite, effectivement, qu'il y a des sites archéologiques qui entourent le lac actuel, qui sont donc postérieurs à ce haut niveau lacustre de ce lac Turkana. Donc des reconstitutions qui permettent de matérialiser et de montrer qu'à une certaine époque, eh bien, il était possible de passer, enfin, l'eau pouvait passer au-dessus d'un seuil pour aller alimenter le Nil, les affluents du Nil. Alors, un autre cas typique et très impressionnant, c'est le cas du lac Tchad, du paléolac Tchad. On parle même de mégalac Tchad. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de cet optimum holocène, ou cette période humide africaine, eh bien, le lac Tchad était beaucoup plus important au point de vue de son extension. C'était le plus grand lac africain à l'époque. Était beaucoup plus étendu qu'il ne l'est actuellement. Ici, vous avez une représentation du lac Tchad de façon très, très rudimentaire. Ici, sur cette carte de l'Afrique, vous avez le mégalac Tchad représenté ici en gris et son bassin versant représenté en pointillé. Donc un zoom sur cette cartographie. Et la partie droite montre le lac Tchad actuel et l'extension de ce lac Tchad pendant la période humide africaine qui allait bien au-delà, notamment qui ce lac Tchad, ce paléolac Tchad, ce mégalac Tchad de la période humide africaine était caractérisé par deux bassins. Un bassin qui est occupé à l'heure actuelle par le lac Tchad tel que nous le connaissons et un autre bassin du lac Tchad, en fait plus profond, qui est occupé par la dépression actuelle que l'on appelle la dépression du Bodélé. Lorsque le niveau était encore suffisant, il y avait une petite rivière, il y avait une possibilité en fait de passage entre les deux bassins lors de la régression, ce qu'on appelle le Bahr el Ghazal. et encore une fois une extension absolument gigantesque de ce mégalac Tchad pendant la période humide africaine, qui était le plus grand lac africain. Alors, il est possible, c'est une zone qui est totalement désertique aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de végétation, et il est possible de faire de la géomorphologie. Alors, on peut aller, il faut effectivement aller sur le terrain, mais on peut, en utilisant de l'imagerie satellitale à très haute résolution, il est possible en fait d'étudier de façon très fine les contours de ce mégalac Tchad. Ici, vous avez une cartographie, encore une fois, de recherches qui ont été effectuées par un groupe français qui montre en fait l'extension de ce mégalac Tchad avec l'extension actuelle et en bleu l'extension de l'époque avec ce fameux bassin profond du Bodélé. Il est possible, en faisant des zooms dans certaines zones, eh bien, d'étudier de façon assez fine des éléments sédimentaires qui sont tout à fait caractéristiques de lacs anciens, enfin, ou de lacs actuels, ou de sédiments actuels. Ici, vous avez la présence dans ce lac, enfin, de ce lac fossile Mégalac Tchad, d'une, ce que l'on appelle une flèche littorale fossile qui est en plein désert. Donc ici, il faut voir en fait un ancien trait de côte et des figures de sédimentation. Donc ici, vous voyez l'échelle, 5 km, donc c'est quelque chose qui est relativement conséquent. Et sur la partie droite, c'est juste une image actuelle du même type de flèche littorale située ici en mer d'Azov, donc une petite mer connectée à la mer Noire, avec les mêmes figures de sédimentation typiques que l'on voit ici, et une flèche sédimentaire qui évolue dans le temps aussi, qui a tendance à croître avec apport de sédiments par les courants qui étaient indiqués ici en rouge, et qui existent à l'heure actuelle pour le cas de la mer d'Azov, et qui sont représentés ici par cette flèche rouge. Donc il est possible en fait de vraiment prouver de façon indubitable, de toute façon il suffit d'aller sur le terrain pour récolter des fossiles lacustres, mais on peut vraiment étudier la géométrie, la morphologie, la courantologie même de ce mégalac Tchad, et même la modéliser. Alors, une vue tirée de compilations de travaux qui permettent de comparer les différents enregistrements. Ici, vous avez une reconstitution au cours du temps des niveaux du lac Tchad, du mégalac Tchad, ainsi que à la fois dans le bassin actuel du lac Tchad et dans le bassin étendu du Bodélé, avec donc des fluctuations et que l'on peut dater et que l'on peut représenter en fonction du temps. Alors ici, le temps, la flèche temporelle évolue de droite à gauche, le début de l'Holocène est ici, vers 12 000 ans, et les âges sont présentés en milliers d'années avant le présent, donc on voit un niveau beaucoup plus important et un effondrement vers 5 000 ans, avec bon, des soubresauts, mais encore une fois, une période donc, qui se termine vers 5 000 ans avant le présent, et que l'on peut étudier aussi avec d'autres enregistrements. Alors nous le verrons de façon un peu plus détaillée dans la suite du cours, mais il est possible aussi de reconstituer la chronologie en fait, de cette période humide africaine en considérant les flux de poussière sahariennes qui sont déposés dans les sédiments marins au large de la Mauritanie. Donc ici, vous avez ce qui est représenté ici, ce sont les flux de poussière terrigène dans des carottes de sédiments marins. Alors ici, cette période humide africaine était caractérisée par un minimum de flux de poussière, et c'est pour cela en fait que pour juste les besoins de la comparaison, l'échelle ici de ces flux de poussière ou de ces flux terrigènes sont représentés de façon avec une échelle inversée. On passe de 60 à 35, et de la même façon, il est possible de reconstituer à partir de sédiments marins des salinités, des paléosalinités, et comme en fait cette période humide africaine arrosait aussi toute cette partie de l'Afrique, on s'attend à avoir une baisse de salinité pendant la période humide africaine que l'on peut reconstituer dans les sédiments marins. Donc ici, tiré d'une étude où la salinité a été reconstituée à partir de mesures de barium dans les foraminifères planctoniques, eh bien, ce qui a été, qui sont reliés, qu'on peut relier de façon empirique, avec des calibrations empiriques, à la salinité de l'océan Atlantique dans cette zone, il est possible de faire une reconstitution des fluctuations de salinité qui, encore une fois, ici, pour les besoins de la représentation, sont représentées de façon inversée. On passe de 30 pour 1000 ici à 22 pour 1000. Donc on a des fluctuations qui vont dans le même sens, c'est-à-dire que tout cet épisode de la période humide africaine était dessalé dans cette zone du monde, dans le golfe de Guinée. Donc des événements qui globalement se correspondent. On voit aussi, et on y reviendra par la suite, que les fluctuations pour entrer et sortir de cette période humide africaine sont relativement rapides en comparaison avec les fluctuations qui constituent en fait le principal forçage climatique de l'époque, qui est la variation de l'insolation. Ici, vous ai rappelé la courbe, j'avais déjà montré ça dans les précédents cours, de l'insolation exprimée en watts par mètre carré au niveau en fonction du temps. On voit très nettement, bon, il s'agit d'un phénomène qui est régulier et qui ne présente pas d'à-coup, donc on a effectivement quelque chose qui est graduel pendant pratiquement une diminution de l'insolation pendant toute la période holocène, qui démarre à peu près ici au maximum, donc une diminution que nous avons déjà vue, et globalement sinusoïdale, alors que les phénomènes d'entrée et de sortie de cette période humide africaine sont relativement abrupts. Nous verrons par la suite que c'est quelque chose qui est vraiment caractéristique et que d'autre part, les efforts de modélisation, donc nous le verrons dans le prochain cours lorsque nous aborderons ces problèmes de modélisation et de représentation de cette période humide africaine, nous verrons qu'il est possible aussi d'essayer de comprendre ce caractère abrupte, beaucoup plus rapide que ne le laisserait supposer une réponse simplement linéaire à l'insolation. Alors ici, encore une fois, une autre vue qui compile, en fait, et qui compare, il est important de comparer les différents enregistrements, c'est ce qui a été fait, encore une fois, par Françoise Gass, ici, avec une comparaison directe, en fonction du temps, avec à la fois les âges radiocarbone et les âges calibrés, quelques âges calibrés, donc il faudrait tout remettre avec une échelle d'âge en année calendaire. Mais ici, donc, le début de l'Holocène commence à peu près ici, vers 10 000 ans C14, et donc à peu près 12 000 ans, 11 600 ans en âge calendaire. Donc un optimum lacustre vu notamment avec ces reconstitutions du niveau du lac Abbé, donc qui sont tout à fait caractéristiques, avec encore une fois des à-coups et une fin de la période humide africaine qui est relativement abrupte, et une correspondance avec d'autres zones, d'autres lacs, un système de lacs, le lac Ziwa et Chala, un système qui est situé aussi en Éthiopie, donc avec un haut niveau des lacs et des à-coups qui globalement correspondent. Encore une fois, il y a beaucoup de recherches et les évidences sont pas forcément, ne permettent pas forcément de faire un enregistrement à très haute résolution de façon continue. Mais il est indéniable qu'il y a des correspondances entre les différents enregistrements. Ici, ce que l'on retrouve, là, c'est le niveau du Bahr el Ghazal qui séparait le bassin du Bodélé et du bassin du lac Tchad actuel, et des reconstitutions réalisées beaucoup plus au sud, ici, pour le bassin pour le lac du Bosumtwi, au Ghana, donc situé beaucoup plus au sud. Ici, on est à 6 nord, alors que là, on est à 11 nord. Donc des variations en fonction des zones géographiques, mais qui globalement montrent un haut niveau pendant cet optimum lacustre de la période humide africaine. Alors, il est aussi possible d'étudier ce type. Enfin, les sédiments et la chronologie fine en fait de tous ces événements en considérant les sédiments de certains lacs qui sont encore aujourd'hui préservés, qui existent encore aujourd'hui dans cette dans le bassin versant du mégalac-Tchad, il y a encore aujourd'hui certains petits lacs qui sont en fait alimentés par des aquifères profonds, en particulier des aquifères qui ont été rechargés pendant la période humide africaine. Il s'agit notamment de l'aquifère, que l'on a, enfin, des grès nubiens. Dans une dépression, dans la dépression d'Unyanga, située entre les monts du Tibesti et de l'Enedi, il y a une série de lacs qui sont alimentés. Ici, vous avez une photo de ce fameux d'un des lacs qui a été étudié, le lac Yoa, qui est situé en plein désert, comme vous le voyez sur cette photographie, et qui est alimenté en permanence par ces grès nubiens, par cet aquifère des grès nubiens, et qui préserve encore une fois ce lac à l'heure actuelle, qui est totalement, s'il n'y avait pas ces résurgences, ne pourrait pas se préserver. Enfin, il aurait disparu depuis longtemps. Ici, vous avez une vue satellite qui montre en fait les langues de sable qui ont tendance à le recouvrir en partie. Donc, un lac Yoa qui a l'avantage justement d'exister encore aujourd'hui et de préserver du sédiment. Donc, il est possible, il a été possible à des collègues d'étudier ces sédiments et de prélever en particulier des carottes sédimentaires que l'on peut dater à la fois avec des outils géochronologiques de radiochronologie comme le carbone 14, comme le radiocarbone, mais enfin, ces lacs sont finement lités avec des lamines annuelles qui permettent carrément, dans certaines zones, de compter annuellement, année par année, les âges dans le sédiment. C'est ce qui a été fait par, en particulier, un chercheur allemand, Stéphane Kröppelin, qui est déjà venu au Collège de France pour une conférence, donc dont la conférence est disponible sous la forme de vidéo, qui a pu montrer en fait l'évolution temporelle des conditions hydrologiques de ce lac Yoa et donc de toute la zone entourant et de ce bassin versant qui alimentait le lac Tchad. Donc ici, ce que les chercheurs ont fait, c'est d'une part regarder le sédiment. Ici, vous avez quelques photos qui correspondent à différentes zones stratigraphiques dans cette carotte qui est datée. Alors ici, la carotte du lac Yoa ne permet pas de remonter au début de la période humide africaine, en tout cas pour l'instant. Il y a d'autres carottes. Encore une fois, il y a aussi des collaborations avec le CEREJ d'Aix-en-Provence et j'espère que dans quelques années, nous aurons... Enfin, prochainement, il y aura d'autres enregistrements encore qui viendront compléter cette étude, en particulier pour la période plus ancienne, mais toujours est-il que pour cette étude, il a été possible de reconstituer la chronologie des événements depuis 6000 ans avant le présent jusqu'à l'actuel, et notamment d'étudier de façon assez fine les différentes espèces de diatomées. Et les diatomées lacustres, en fait, sont très sensibles, les différentes espèces, alors ce qui n'est pas représenté sur ce diagramme, mais les différentes espèces sont très tributaires des conditions d'hydrologie, de conductivité, de salinité des eaux lacustres. Et il est possible, en faisant des comptages et en distinguant les différentes espèces de diatomées, de ces algues lacustres, microalgues, construire des fonctions de transfert qui sont tout à fait empiriques, pour relier les différentes statistiques, les différents comptages de ces diatomées en termes de conductivité de l'eau du lac, exprimée en microsiemens par centimètre. Et il est possible aussi d'étudier, je vous en avais parlé dans le premier cours, d'autres organismes, d'autres fossiles. Ici, les chironomides, donc encore une fois des diptères, des mouches, dont les différentes espèces sont aussi très dépendantes en fait, des conditions hydrologiques du milieu. Et il est possible aussi d'utiliser des fonctions de transfert qui relient les statistiques sur les différentes espèces de chironomides et les salinités et conductivités de l'eau du lac. C'est ce qui a été fait par ces chercheurs. Donc il y a une correspondance avec, entre les deux informations, les informations liées aux diatomées et les informations qui sont liées aux chironomides, avec notamment pendant la période humide africaine qui s'arrête vers 4000, 5000 ans avant le présent, en tout cas vers 4000 ans dans cet enregistrement, donc une augmentation très importante de la conductivité de l'eau, donc qui montre en fait que un phénomène d'évaporation très important, ici une eau beaucoup plus diluée et un passage vers une eau qui est beaucoup plus concentrée. Et on voit aussi des changements manifestes dans le stock organique. On voit un changement de couleur au cours du temps et une teneur en matière organique qui est beaucoup plus importante pendant la période humide africaine. Donc une productivité aussi dans le lac beaucoup plus importante. Donc c'est quelque chose qui a pu être étudié de façon encore plus complète parce que ces sédiments contiennent aussi des pollens qui permettent en fait d'étudier et de reconstituer la flore tout autour du lac Yoa. C'est ce qui a été fait toujours encore une fois dans le cadre de cette étude, en faisant des comptages des différents taxons qui sont résumés sur ce diagramme pollinique simplifié, toujours au cours du temps depuis 6000 ans avant l'actuel, avec des comptages des différents pollens représentatifs à la fois de plantes sahariennes, enfin, qui arrivent à survivre dans des conditions très arides. Et une caractéristique, c'est que pendant cette période humide africaine, encore une fois, jusqu'à 4000 ans, 4000 ans en tout cas dans cet enregistrement, une présence, enfin en tout cas jusqu'à 4500 ans, 5000 ans, une présence importante dans cet enregistrement de pollens de graminées, de pollen de bruyère arborescente et un effondrement de toute cette végétation vers 5000, 4500 ans avant le présent pour ensuite être remplacé par une végétation très typique de zones tout à fait arides. Donc on a une transition qui est relativement rapide, beaucoup plus rapide que ne laisserait le supposer en fait un forçage unique et linéaire de l'insolation qui est encore une fois résumé encore une fois sur cette courbe. Ici vous avez une courbe d'insolation estivale à 20 degrés nord avec exprimée ici en watts par mètre carré. Donc on a un remplacement total entre 4000 et 5000 ans et 5000 ans avant l'actuel de cette végétation entre les deux parties de ce diagramme pollinique. Alors au début du cours, je vous ai parlé de la dépression du Baudelaire, donc qui faisait partie de ce mégalac Tchad. Ici, vous avez ce qui est représenté, c'est une photo une photo satellite de cette dépression du Baudelaire, où l'on voit notamment des nuages de poussière blanche qui sont liés à l'érosion de ces sédiments lacustres déposés pendant cette période humide africaine. Donc on reconnaît aussi un peu plus au sud le lac Tchad actuel, et qui était connecté à l'époque avec cet énorme mégalac à cette dépression qui est en fait beaucoup plus basse que le lac Tchad actuel. Et alors ces dépôts étaient essentiellement constitués de diatomites, hein, de déposés. Bon, on l'a vu, il y avait des dépôts lacustres de formation de diatomées. Ces diatomées donc siliceuses forment des sédiments qui sont érodables et qui sont en fait transportés à très grande échelle. La dépression du Baudelaire est même considérée comme la zone la plus poussiéreuse au monde, avec un flux important qui est transporté à la fois sur tout le continent africain jusqu'en Atlantique, jusqu'à l'autre côté, enfin jusqu'à l'Amérique du Sud. On retrouve cette poussière du Baudelaire jusqu'au centre de l'Amazonie. Donc on a véritablement une zone importante de flux de poussière et une érosion depuis cette période humide africaine du début de l'Holocène très caractéristique. Alors il est possible d'étudier ces flux de poussière de façon encore plus proche de l'Atlantique ici avec d'autres photos aériennes. Ici vous avez une photo actuelle qui a été prise d'un nuage de poussière venant du Sahara, flux de poussière en provenance du Sahara. Ici on reconnaît la côte marocaine jusqu'à la Mauritanie ici, les îles Canaries, l'Algérie, donc un flux de poussière qui va être propagé, qui va être transporté au-dessus de l'Atlantique, que l'on va pouvoir retrouver jusque dans les Caraïbes. Donc un dépôt qui va être très important au niveau de l'Atlantique et sur toutes les basses latitudes, que l'on va pouvoir étudier dans les sédiments, en prélevant des sédiments, des carottes sédimentaires qui vont être prélevées tout au long de cette côte, depuis le Maroc jusqu'à la Mauritanie. C'est ce qui a été fait par de nombreux chercheurs depuis des années et qui donne finalement un message, une vue tout à fait complémentaire de ce qui peut être étudié dans les sédiments lacustres qui, malheureusement, s'érodent et très souvent ne permettent pas d'avoir une continuité temporelle sur toute la période humide africaine. Il est possible, en fait, d'étudier de façon complémentaire et quelquefois plus aisée d'étudier cette période humide africaine dans les sédiments océaniques, dans les sédiments marins, en particulier pour l'Atlantique. On verra que c'est aussi le cas pour l'autre côte au niveau de l'est de l'Afrique. Donc, plusieurs carottes, notamment dans le cadre de cette étude publiée en 2013, ont été prélevées depuis le Maroc jusqu'à la Mauritanie avec une étude des flux de poussière exprimés en grammes par centimètre carré et par milliers d'années, représentées ici pour les différents prélèvements, les différents carottages. Donc il faut imaginer des sédiments de plusieurs dizaines de mètres et une étude fine des différentes poussières contenues provenant du Sahara, étudiées dans ces sédiments. Donc on a un effondrement pendant la période humide africaine qui est souligné ici entre le début de l'Holocène et 5000 ans avant le présent, la zone qui est représentée ici en vert, un effondrement du flux de poussière qui est lié au fait qu'il y avait de la végétation, une pluviosité, une pluviométrie plus importante et des lacs beaucoup plus conséquents, donc une érosion et un flux de poussière bien moindre que pour la période actuelle. Donc on a des minima dans ces différents carottages. On voit aussi notamment que lorsque la résolution est suffisante dans ces enregistrements, il est aussi possible de montrer que l'entrée dans cette période humide africaine et la sortie sont apparemment assez abruptes. On l'a déjà vu dans les autres enregistrements. C'est notamment le cas pour cet enregistrement à beaucoup plus haute résolution que ceux situés ici un peu plus au nord. Et donc on a l'impression effectivement que cette période humide africaine, cette entrée et cette sortie, cette fin de la période humide africaine est très abrupte, très rapide, notamment en comparaison avec le forçage principal qui est cette lente diminution depuis le début de l'Holocène, à peu près 12 000 ans avant maintenant, cette lente diminution progressive de l'insolation qui est liée aux fluctuations de l'orbite terrestre. Donc encore une fois, quelque chose qui va être important d'étudier, notamment lorsque l'on considérera la modélisation et la comparaison entre les enregistrements à la fois continentaux et marins et les essais de modélisation de toute cette période. Alors, il est une autre évidence qui est tout à fait impressionnante, qui est complémentaire de ce qui a été vu au large de la Mauritanie, c'est la découverte qui est assez récente, en fait, par un groupe français, d'un paléofleuve, bon, qui est appelé le paléofleuve de Tamanrasset, et qui a été découvert en utilisant de l'imagerie satellitaire radar qui permet littéralement de cartographier les roches sous le sable. C'est ce qui a été fait par cette équipe avec une publication en 2015 pour mettre en évidence un réseau, un bassin et un réseau hydrographique qui n'existe plus à l'heure actuelle. Donc ce fameux paléofleuve de Tamanrasset, ici cartographié au même titre que les bassins versants et les grands fleuves actuels en Afrique, le Sénégal, le Niger, le Congo, le Nil, dont nous reparlerons abondamment. Donc un fleuve qui n'existe plus, mais que l'on peut matérialiser et cartographier de façon très fine avec ses photos et ses imageries satellitales radar. Il est possible aussi de regarder des détails de l'hydrographie de ce paléofleuve et notamment de montrer qu'il est connecté, il était connecté à l'époque avec un canyon sous-marin, comme le sont de très, très nombreux fleuves, en particulier parce que ces canyons... La connexion, il faut imaginer aussi que le niveau de la mer fluctue aussi au cours des temps géologiques. Donc il peut y avoir érosion et extension au cours du temps de ces fleuves vers sur le plateau continental, mais toujours est-il que l'étude qui a été faite à terre, essentiellement avec ces imageries satellites, a été complétée par une étude d'un canyon sous-marin qui est très nettement connecté avec ce paléofleuve de Tamanrasset qui était gigantesque à l'époque et qui drainait donc toute l'Algérie, comme on le voit à ce niveau-là. Donc c'est quelque chose qui est complémentaire et qui, encore une fois, était caractéristique de cette période humide africaine. Il est possible, une autre façon d'étudier l'hydrologie, encore une fois, pour l'instant, c'est de montrer ces hauts niveaux lacustres, d'essayer de les modéliser. Il est possible aussi de mettre en évidence des flux de poussière. Il est aussi possible d'avoir des informations un peu plus directes, quantitatives, en utilisant des calibrations entre certains indicateurs géochimiques, isotopiques et les précipitations. C'est notamment le cas des isotopes de l'eau. Alors, dans des précédents cours des précédentes années, je vous avais parlé du fait que dans la zone intertropicale, les isotopes de l'eau, en particulier le rapport deutérium sur hydrogène, des sur H, et le rapport O18, O16 de l'oxygène de l'eau, sont corrélés négativement avec le taux de précipitation. C'est ce que l'on appelle l'effet de masse. Donc il est possible, encore une fois, si l'on a des archives dans lesquelles il est possible de reconstituer le delta D, enfin, ou le rapport D sur H et le delta O18, ou rapport O18 sur O16, de remonter semi-quantitativement avec des fonctions de transfert et des modélisations au taux de précipitation de l'époque. Alors ici, vous avez une cartographie simplifiée qui montre la relation qui est inverse, en fait, entre le D sur H, le delta D, et les précipitations aujourd'hui, observées aujourd'hui. Ici, vous avez une cartographie qui modélise en fait ce delta D à l'heure actuelle pour les précipitations au niveau de l'Afrique. Et essentiellement, on a une corrélation inverse entre le rapport D sur H, exprimé en pour 1000, en fonction des précipitations. Lorsque les précipitations sont élevées, eh bien, le rapport D sur H est faible, et lorsque ce rapport est très élevé, eh bien, cela signale des précipitations très très faibles. Alors il est possible de mesurer ce rapport D sur H, bien évidemment sur l'eau, si elle est préservée dans les aquifères. Je vous en avais parlé, je vous avais montré qu'on pouvait retrouver de l'eau, même dans les sédiments, je vous avais parlé la semaine dernière, de l'eau interstitielle dans les sédiments de la mer Noire, où il est possible à la fois de mesurer la salinité, la chlorinité et le delta O18. Mais pour les sédiments, comme il n'y a plus d'eau correspondant à ces paléolacs, il est aussi possible, ou dans les sédiments marins océaniques, il est possible de mesurer ce rapport D sur H dans des lipides, notamment, qui sont en fait transportés, érodés, qui sont en fait les cires cuticulaires des feuilles d'arbres, enfin de végétation, que l'on va retrouver, qui peuvent être érodées, qui vont être sédimentées au même titre que les poussières qui sont transportées au milieu de ces poussières. Donc il est possible dans ces fameuses cires cuticulaires, les wax ici en anglais, de faire des mesures de D sur H et de reconstituer un rapport d'essurage que l'on peut qui est aussi inversement corrélé au taux de précipitation. C'est ce qui a été montré ici par ce groupe américain. Encore une fois, les calibrations ne sont pas parfaites, mais la compréhension, je dirais, au premier ordre physique est là. Et donc, il est possible, en mesurant le rapport d'essurage de ces lipides contenus dans les sédiments marins et lacustres, de remonter de façon semi-quantitative à des taux de précipitation exprimés en millimètres par an. Alors, c'est ce qui a été fait par de nombreux chercheurs. Au niveau de notre laboratoire à Aix-en-Provence, nous avons aussi un laboratoire qui permet de faire ces mesures de dessurage dans les lipides pour étudier notamment cette période humide intense du début de l'Eocène. Ici, vous avez toujours tiré d'une étude des mêmes carottages que je vous avais montré auparavant avec les flux de poussière qui évoluaient dans le temps. Eh bien, les collègues ont mesuré le rapport D sur H dans les lipides caractéristiques d'origine terrestre qui étaient synthétisées par la végétation de l'époque, mesures de dessurage et utilisation de la calibration en fonction des précipitations pour essayer de faire une reconstitution des précipitations de l'époque. Donc ce qui est représenté sur le diagramme de droite, c'est encore une fois en fonction du temps depuis 25 000 ans jusqu'à l'actuel. La période humide africaine est encore une fois représentée ici entre le début de l'Holocène et 5 000 ans avant maintenant. Le rapport, ce qui est représenté ici sur ces différents diagrammes, c'est pour ces quatre sites, le rapport d'essurage qui, lui, dans ce cadre-là, pour les besoins juste esthétiques de la représentation, est représenté de façon inversée. Donc on retrouve ici, on passe de moins 10 à moins 40, et donc la période humide africaine est caractérisée par un minimum, qui veut dire un maximum de précipitations, puisqu'il y a une corrélation inverse entre le rapport d'essurage et les précipitations actuelles et donc dans le passé. Donc il est possible, à l'aide de cet outil isotopique, de faire des essais de reconstitution des précipitations et qui, en montrant en fait que pendant toute cette période, le continent a été caractérisé par une précipitation beaucoup plus importante que l'on peut calibrer avec cet outil du dessurage. Alors il est possible, il a été possible aussi de faire ce même type de mesure dans les lacs, dans les sédiments lacustres, en particulier des lacs est-africains, et dans des sédiments océaniques, enfin marins, au niveau du golfe d'Aden. C'est ce qui est récapitulé ici de façon résumée sur cette figure, avec, en fonction du temps, ici depuis 20 000 jusqu'à l'actuel, la période humide africaine, encore une fois représentée ici en vert, des fluctuations du dessurage, à la fois dans les sédiments marins dans le golfe d'Aden, avec une fluctuation et un minimum du rapport dessurage exprimé en pour 1000, et des enregistrements pour le Tanganyika, pour le lac Chala, ici, qui montrent globalement une correspondance et un maximum de précipitations, donc un minimum du delta D, pour cette période humide africaine, avec encore une fois une entrée et une sortie de cette période humide africaine relativement rapide en comparaison avec l'évolution de l'insolation qui est encore une fois représentée ici, et pour toute la période de l'Holocène, essentiellement une lente diminution progressive, mais encore une fois avec une amplitude au point de vue du forçage climatique qui est indéniable pour la période estivale, en watts par mètre carré, donc une lente diminution, alors que l'entrée et la sortie de cette période humide africaine semblent, sur ces enregistrements, beaucoup plus rapides. En tout cas, elles ne peuvent être expliquées par une relation très simple, linéaire, avec le forçage orbital. Alors, les autres forçages, on les a vus, c'était le forçage des gaz à effet de serre, il y a aussi, à haute résolution, les fluctuations aussi des éruptions volcaniques stratosphériques, les fluctuations aussi solaires, mais comme on va le voir lorsque l'on abordera la modélisation, en tout cas les résultats de modélisation comparés avec les données, c'est pas ça qui va expliquer le caractère très abrupt. Il va falloir faire entrer en ligne de compte d'autres phénomènes que l'on verra par la suite dans les explications sur la modélisation. Alors, donc des enregistrements tout à fait caractéristiques. Alors, certains auteurs ont essayé de comparer, encore une fois, les différents enregistrements, ici tirés d'un autre travail qui a été réalisé en comparant plusieurs enregistrements. Alors ici, l'échelle, la flèche temporelle va de gauche à droite. Hein, ici, le temps zéro est à droite. Depuis 20 000 ans jusqu'à l'actuel, la période humide africaine, ou AHP en anglais, depuis le début de l'Holocène jusqu'à un peu plus de... Ici, les auteurs font terminer cette période humide africaine vers 4 000 ans avant le présent. La comparaison qui est faite sur ce diagramme présente encore une fois les flux de poussière, ici, à 20 degrés nord, les fluctuations aussi du delta D pour le Sénégal, un enregistrement pour le lac Bosumtwi au Ghana, on en a parlé, des fluctuations aussi du delta D au niveau du Congo, du delta du Congo. Et un des messages importants, c'est qu'il n'y a pas apparemment de synchronéité, de synchronisme entre les différentes fins de ces périodes humides africaines vues dans ces différents enregistrements. C'est en tout cas la thèse qui est présentée dans cette étude. apparemment, enfin, selon les auteurs, il y aurait une asynchronie entre les différentes fins abruptes, dans pratiquement tous les cas, de cette période humide africaine, vue dans les différents enregistrements, lorsqu'on les représente en fonction des latitudes depuis 20 degrés nord jusqu'à pratiquement 5 degrés sud. Donc la flèche rouge est censée représenter, elle n'est pas de moi, elle est des auteurs, elle est censée représenter cette transgressivité temporelle, le fait qu'il y a une progression avec une fin précoce au nord et une fin plus tardive au sud. La flèche n'est pas de moi, c'est pas très convaincant. Il y a des évidences, encore une fois, géochronologiques sont là, mais on attend encore d'autres enregistrements pour être vraiment convaincu du caractère vraiment différent de ces enregistrements. Alors, d'autres chercheurs, en particulier des Français, ici des travaux de Anne-Marie Lézine, ont compilé en fait les données lacustres, fluviales et palustres, c'est-à-dire qui sont liées à des marais, en fonction du temps, pour essayer de voir s'il y a pas des tendances géographiques sur ces différents hauts niveaux des lacs pendant toute la période holocène. Ici, vous avez une cartographie évolutive qui démarre à 11 500 ans avant le présent, donc le tout début de l'Holocène, 11 500 ans, progressivement 10 500, 9 500, donc on pourrait dérouler le film. Ici, il s'agit de différents enregistrements datés à la fois des marais, des évidences de lacs, des évidences pour une aridité, en fonction du temps. Alors, il est possible, avec ce type d'information, de ce type d'enregistrement, d'essayer de caractériser des différences géographiques et temporelles dans cette fin, en particulier, à partir de 5000 ans avant le présent, de la période humide africaine. Alors, c'est ce qui a été fait par ce groupe et par d'autres collègues aussi. Ici, vous avez une cartographie simplifiée d'un travail qui montre en fait une transgressivité à la fois dans le temps et dans l'espace de cette fin de la période humide africaine vers, alors encore une fois, entre 6000 et pratiquement 3000 ans avant le présent, même encore plus récente dans certains cas. Les différents codes de couleurs représentent en fait la fin de l'âge de la fin de cette période humide africaine, précoce, 7000 ans ici, 7000, 6000, 5000 pour les points qui sont représentés en rouge et tardive pour les points qui sont représentés en vert avec les points intermédiaires qui sont représentés en bleu pour une terminaison de cette période humide africaine, une fin vers 4000 ans, 5000 ans avant le présent. Donc on a, encore une fois, en compilant et en essayant de simplifier et de regarder à l'échelle continentale pour tout le nord de l'Afrique, la fin de cette période humide africaine, on voit qu'il y a une certaine transgressivité dans le temps, c'est-à-dire que la fin de la période humide africaine est plus précoce à l'est qu'à l'ouest, et il y a aussi un gradient nord-sud. Les enregistrements qui présentent la fin la plus tardive sont situés plus au sud, donc c'est cohérent avec l'essai qui avait été présenté auparavant, qui n'était pas complètement convaincant sur 4 enregistrements. Quand on a une compilation plus importante, on voit effectivement une certaine des différences entre les zones géographiques. Donc c'est quelque chose aussi qui va être intéressant dans la comparaison modèle climat pour modèle données, pour voir si effectivement les modèles climatiques, encore une fois les mêmes que ceux qu'on utilise pour les projections du prochain siècle, sont capables de reconstituer, à la fois de modéliser et de représenter correctement cette période humide africaine, à la fois dans ses caractéristiques en pluviométrie et en évolution temporelle dans les enregistrements. Donc c'est quelque chose que nous verrons dans le prochain cours. Une autre caractéristique de cette période humide africaine, c'est qu'elle est caractérisée, la même période est caractérisée par une perturbation hydrologique de la Méditerranée très conséquente, qui est connue en parallèle avec l'étude de cette étude de la période humide africaine. Essentiellement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, ici vous sont présentés de façon imagée les fluctuations entre l'actuel et le minimum, enfin le maximum d'insolation, cette évolution de la mousson africaine, donc une intensification et une migration vers le nord de la mousson africaine, c'est ce qui est en tout cas l'hypothèse de base que l'on, bon, qui est encore une fois modélisée avec les modèles climatiques, comme nous le verrons. Mais pendant cette période, eh bien, le bassin méditerranéen de la mer Méditerranée était caractérisé par une perturbation hydrologique et un mode de fonctionnement qui était très différent du fonctionnement actuel. À l'heure actuelle, c'est bon, représenté de façon très imagée et très imparfaite, la Méditerranée est connectée à l'Atlantique via un système que l'on appelle de anti-estuarien, avec un flux d'eau depuis l'Atlantique vers la Méditerranée, une plongée, notamment en hiver, dans certaines zones géographiques de la Méditerranée, à la fois en Méditerranée de l'Ouest et en Méditerranée orientale, une plongée vers les profondeurs, une oxygénation, une ventilation de l'eau profonde et un courant de retour qui est à peu près équivalent aux différences du bilan évaporation, moins précipitation et flux de rivière. Donc au niveau, par exemple, de Gibraltar, il y a en permanence un flux de l'ordre de 1 sphère-drop, c'est-à-dire 1 million de mètres cubes par seconde, à la fois entrant et sortant en profondeur. Alors ici, cette représentation vaut à la fois pour le détroit de Gibraltar et le détroit de Sicile entre les deux bassins méditerranéens. Donc on a, à l'heure actuelle, une circulation qui est dite anti-estuarienne, avec une plongée d'eau profonde et un flux depuis l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée, et une oxygénation avec plongée d'eau profonde qui maintient en fait des sédiments pélagiques relativement oxiques et donc des organismes du benthos qui peuvent consommer de la matière organique. Pendant la période humide africaine, pendant ce maximum d'insolation de l'Holocène, eh bien le mode de fonctionnement de la Méditerranée était en fait tout autre et essentiellement, de façon très simplifiée et imagée, était caractérisé par l'absence justement de cette plongée d'eau profonde que l'on voit sur la partie gauche de ce diagramme. Ici, toute la partie droite représente la modélisation, simplifiée, hypothétique du fonctionnement de la Méditerranée à cette époque. On la doit essentiellement aux travaux d'une autre Française, Martine Rossignol-Strick, qui a été une des premières justement à mettre en évidence ce mode de fonctionnement dans les années 80, avec une stratification des masses d'eau essentiellement liée aux pluies et aussi, comme on va le voir, au débit du Nil, donc arrêt de cette circulation anti-estuarienne et une oxygénation des masses d'eau profondes qui se faisait beaucoup moins, pour aller même jusqu'à une situation où il y avait carrément anoxie ou suboxie dans la zone profonde, et donc préservation de matière organique dans les sédiments et formation d'un faciès particulier que l'on appelle un faciès de sapropelle, c'est-à-dire de matière organique très concentrée dans les sédiments océaniques, tout à fait caractéristique. Alors ici, vous avez, encore une fois, pour compléter cette simplification sur la formation de sapropelle, vous avez encore une fois un diagramme un peu plus complet qui montre justement cette comparaison entre les trois situations, et une photo à gauche qui montre un exemple de carottage et de sédiments avec un zoom en fait sur la partie sapropellique qui ne fait que quelques centimètres, mais encore une fois, en datant et en étudiant finement les différentes couches, il est possible d'avoir accès à un enregistrement, comme je vous le montrerai, avec une teneur en matière organique qui est très importante, qui est tout à fait corrélée à la couleur du sédiment. On a des sédiments pélagiques tout à fait typiques qui contiennent très peu de matière organique, de l'ordre de quelques dixièmes de pourcent en matière organique, et alors que la zone noire ici représentée, que l'on voit très nettement sur cette photo, qui correspond au dépôt de sapropelle, que l'on peut dater, ici on va le voir un peu plus précisément, au début de l'Holocène, donc toujours pour la même période, entre on va dire 12 000 jusqu'à 6 000 ans avant le présent, une couche qui est caractérisée par des teneurs en matière organique de plusieurs pourcents, voire quelques dizaines de pourcents dans certains cas. Alors, le diagramme de droite complète un petit peu la vue précédente et montre en fait la comparaison hypothétique entre le mode de circulation moderne au niveau de la Méditerranée. Bon, ici, on pourrait, donc il faut y voir le détroit au niveau de Gibraltar, avec les échanges entre l'Atlantique et la Méditerranée, et en particulier au niveau de l'est de la Méditerranée, donc une plongée d'eau profonde qui réoxygène les eaux profondes et qui ne permet pas la préservation de matières organiques très concentrées dans les sédiments à l'heure actuelle. Ici, vous avez le flux des fleuves qui est minime à l'époque actuelle. Pendant cette période humide africaine, eh bien, les pluies étaient différentes. Le débit des fleuves en particulier, comme on va le voir, on fera tout un cours un peu plus spécifique. Le sixième cours sera dédié un petit peu au Nil. On verra que le flux du Nil était beaucoup plus conséquent, donc contribué à causer justement une inversion de la circulation avec une circulation dite estuarienne, avec pour le coup un flux de surface sortant de la Méditerranée et un flux rentrant en profondeur avec une remontée de nutriments qui a favorisé en fait la productivité de surface. Donc on a à la fois une diminution dans ce cadre-là, une diminution de l'oxygénation, parce qu'on n'a plus de plongée d'eau de surface vers le fond, on a un transport d'eau relativement profonde, déjà peu oxygénée, vers les profondeurs de la Méditerranée, mais en plus, il y a un phénomène d'augmentation de la productivité planctonique qui a tendance donc à accumuler de la matière organique dans le sédiment, et les deux composantes, à la fois faible oxygénation et productivité de surface importante, et donc flux de sédiments organiques vers les sédiments profonds, ont généré carrément dans certaines zones et pendant certaines périodes une anoxie, c'est-à-dire une disparition totale de l'oxygène dissous dans l'eau de mer, jusqu'à carrément voir apparaître même de l'H2S libre et des pots de sédiments organiques laminés, comme on va le voir. Donc un dépôt de sapropelle. Alors, quand on fait des carottages de sédiments marins, il est possible d'avoir une continuité beaucoup plus longue, beaucoup plus importante. On peut aller jusqu'à plusieurs millions d'années. Ici, vous avez une représentation, enfin une photo directement d'une carotte. Alors, voir qu'il y a continuité entre ces différents segments de carottes. On retrouve ici le sapropelle numéro 1, qui correspond à la période humide africaine, ici. Et dans la colonne stratigraphique, prélevée en Méditerranée orientale, une récurrence, présence en fait d'autres périodes de sapropelle marquées, bon, que l'on peut voir directement avec cette couleur noire du sédiment qui montre la présence en fait de matière organique concentrée. Donc une récurrence, et en utilisant des outils géochronologiques et en comparant en fait les fluctuations du niveau de la mer que l'on connaît au travers de certains indicateurs, en particulier le rapport Delta O18 des foraminifères benthiques, il est possible en fait de reconstituer au cours du temps, ici vous avez un essai de reconstitution en fonction des millénaires, alors ici on est entre 0 et 250 000 ans, des fluctuations à la fois du niveau marin, donc là on retrouve les différentes, la dernière grande glaciation, l'avant-dernière glaciation, l'avant-avant-dernière glaciation, et ce qui est représenté pour la partie basse de ce diagramme, eh bien, ce sont les fluctuations de l'insolation que nous donnent les astronomes, avec, pour l'hémisphère nord, des fluctuations qui présentent une périodicité marquée à 22 000 ans, liée complètement à la précession des équinoxes. Et dans le sédiment, il est possible de retrouver des zones, des dépôts de sapropelle, notamment le sapropelle dit numéro 1 qui correspond à la période humide africaine, mais aussi d'autres sapropelles beaucoup plus anciens, S2, S3, S4, S5, S6, etc. Le S5 étant caractéristique de la dernière période interglaciaire dont je vous ai parlé dans le premier cours. Donc on a une périodicité tout à fait caractéristique de ces dépôts de sapropelle en Méditerranée qui sont complètement liés au fait qu'il s'agit d'un forçage orbital qui est assez prévisible et cyclique, même si l'intensité du forçage orbital peut varier au cours du temps. On retrouve à chaque fois, lorsque le forçage orbital est important, un dépôt de sapropelle. Alors ce phénomène existe en fait depuis des millions d'années, et il a pu être mis en évidence pratiquement depuis le Miocène. Ici, vous avez une photo qui est très impressionnante, qui représente une carrière. Alors, dans certains cas, les sédiments sont à l'heure actuelle au-dessus du niveau de la mer. Ils ont été exondés on peut directement les étudier dans des coupes géologiques, des affleurements. Ici, vous avez une photo qui représente en fait des successions de sapropelles dans une carrière de Grèce, en Grèce, la carrière de Ptolémaïs. Ces sapropelles en fait sont exploitées parce qu'ils constituent en fait un mauvais charbon. C'est en fait de la lignite qui est exploitée. Ou qui était exploité en tout cas pour comme combustible. Ici, vous avez une échelle en fait de cette carrière avec une personne qui tient un panneau. Donc, vous avez l'échelle qui montre que la puissance de ces couches est importante. On a quand on les étudie et qu'on fait de la géochronologie, il est possible de montrer effectivement qu'il s'agit de cette précession des équinoxes avec un battement tous les 22 000 ans. Donc, quelque chose qui est tout à fait caractéristique. Mais qui, encore une fois, est important pour la période humide africaine. On a une perturbation hydrologique de la Méditerranée qui est tout à fait conséquente. Alors, ce sont des événements que l'on a pu étudier au laboratoire, ici tirés de travaux qui ont été effectués à Aix-en-Provence, encore une fois au CERAGE, une étude relativement fine de certaines carottes qui ont été prélevées en Méditerranée de l'Est. Ici, vous avez une petite carte qui représente la Méditerranée orientale, avec le Nil dont nous parlerons abondamment dans le dernier cours, et différentes carottes, la position de différentes carottes sédimentaires, dans lesquelles il a été possible de mesurer certains indicateurs géochimiques qui nous permettent de reconstituer les fluctuations de différents paramètres climatiques, en particulier les précipitations ou la ventilation profonde dans le sédiment, enfin dans l'océan et donc que l'on retrouve dans le sédiment, en fonction du temps, parce que, encore une fois, tous ces sédiments peuvent être datés, notamment par le radiocarbone. Alors, l'échelle temporelle évolue de droite à gauche. Le début de l'Holocène démarre, encore une fois, à pratiquement 12 000 ans. Donc ici, vous avez, encore une fois, cette période humide africaine, ou AHP en anglais, le sapropel 1 qui correspond au cœur de cette période humide africaine, des enregistrements obtenus dans ces sédiments, à la fois qui sont liés directement au débit du Nil, notamment des rapports élémentaires, en particulier le rapport fer sur calcium, la courbe verte ici, qui représente le flux du Nil. Alors, encore une fois, là, il n'y a pas d'échelle en flux, mais encore une fois, c'est un indicateur, je dirais, semi-quantitatif du flux du Nil qui était beaucoup plus important pendant le sapropel et pendant la période humide africaine, et une salinité de l'eau de mer qui était plus faible. Ici, l'enregistrement est représenté avec un indicateur qui va dans le sens négatif. Ici, le delta O18 diminue dans ce sens-là, et donc on a des conditions plus arrosées et donc une baisse de salinité liée au flux du Nil et liée aux conditions de précipitation lorsqu'on se trouve dans cette zone-ci, sur ces courbes. Il est possible aussi dans le sédiment d'étudier les conditions d'oxygénation au fond de l'océan, au fond de la Méditerranée dans cette zone, notamment parce que dans ces sédiments, certains métaux dissous dans l'eau de mer vont se piéger lorsqu'il y a des conditions suboxiques et anoxiques. Il y a des métaux en trace qui sont contenus dans l'eau de mer, notamment le molybdène ou l'uranium, qui vont avoir tendance à se piéger parce qu'ils sont très sensibles aux conditions redox. C'est notamment le cas de l'uranium, du molybdène, on en verra d'autres par la suite, avec des maxima de concentration. Ici, vous avez le rapport des rapports molybdène sur aluminium ou uranium sur aluminium. On peut aussi exprimer ça en ppm, en concentration directement. Mais ce qui caractérise en fait cette période humide africaine et ce sapropel 1, eh bien, ce sont des maxima de concentration de ces éléments traces piégés dans le sédiment à partir de l'eau de mer. On a un piégeage suboxique de ces métaux jusque dans le sédiment, et donc on peut les retrouver ensuite en faisant des mesures dans ces sédiments marins. Alors, ici, une vue un peu plus détaillée de cette fluctuation. Ici, vous avez un autre diagramme tiré d'une étude complémentaire d'un carottage qui a été prélevé pratiquement dans la même zone que celle que nous avons étudiée, avec une représentation à haute résolution, le taux de sédimentation de cette carotte étant très important, à très haute résolution pour toute la période de l'Holocène. Ici, on démarre vers 12 000 ans avant le présent, 13 000 jusqu'à l'actuel, et on retrouve quelques indicateurs géochimiques, en particulier le rapport au 18 au 16 mesuré dans les foraminifères planctoniques, qui montre en fait un minimum, il faut regarder l'échelle inversée, un minimum pendant la période humide africaine et pendant ce sapropel, et des indicateurs, le rapport titane sur aluminium, lié en fait au flux du Nil, et d'autres indicateurs, notamment directement la teneur en matière organique. Encore une fois, on peut se contenter de la couleur du sédiment, mais rien ne remplace la mesure exacte de la teneur en matière organique, enfin, ou en carbone organique, exprimée en pourcent ici. Donc on a un maximum de la teneur en matière organique pendant cette période du sapropel 1, et d'autres indicateurs, notamment le rapport barium sur aluminium, qui lui est lié en fait à la productivité de surface, la productivité planctonique de ces surfaces, et on retrouve encore une fois un des éléments traces dissous dans l'eau de mer, sensible aux conditions redox, qui va avoir tendance à se piéger lorsque les conditions deviennent suboxiques. Ici, on retrouve donc le vanadium avec des maxima. Et alors, ce qui est important, et c'est pour ça que je voulais vous montrer cet enregistrement qui est tout à fait caractéristique et encore une fois à haute résolution, c'est qu'il y a, on peut matérialiser le fait que les conditions, l'entrée et la sortie de ce sapropel sont relativement rapides et que notamment on retrouve, au même titre que qu'on l'a vu pour les niveaux lacustres, eh bien une période centrale, une période transitionnelle où il y a, dans ce cadre-là, une réoxygénation des masses d'eau profondes. On a un minimum de matière organique. On ne le voit pas forcément sur tous les enregistrements, mais on le voit très bien sur le rapport barium-aluminium qui est lié à la productivité. On le voit très bien aussi sur le piégeage du vanadium. Donc on a quelque chose qui est très caractéristique lié à un événement qui a eu lieu il y a à peu près 8000 ans. Alors encore une fois, on verra ceci lorsque nous considérerons la modélisation. Il est clair qu'il y a une relation. Je vous ai parlé de l'événement à 8000 ans qui était lié à l'effondrement de la calotte Laurentide. Donc on va voir en fait qu'il y a effectivement un probable lien, une connexion, mais qui est relativement complexe et que l'on peut comprendre à l'aide de ces modélisations climatiques. Alors, toujours dans le cadre de notre étude, nous avons effectivement pu reconstituer, ici il s'agit d'un zoom en fait, encore une fois, qui a été réalisé sur la carotte étudiée au Cérège, de certains enregistrements, notamment qui ont trait à l'oxygénation des masses d'eau profondes dans ce bassin. Encore une fois, ici, il s'agit d'une carotte qui a été prélevée à pratiquement 2000 mètres de profondeur. Donc, ce que l'on étudie, eh bien, c'est essentiellement le piégeage de ces métaux sensibles aux conditions redox à ces profondeurs. Donc ici, vous avez un diagramme qui a été publié dans le cadre de cette étude et qui représente, en fonction du temps, pour la période concernée, donc depuis le début de l'Holocène, 12 000 ans, jusqu'à 5 000 ans avant le présent, donc il s'agit d'un zoom de différents enregistrements à quelquefois très haute résolution par scanner XRF. On a en particulier ici le brome qui est complètement lié à la matière organique. On voit une augmentation et qui dure pratiquement depuis le début, depuis 11 000 ans, ou un peu même avant, on peut dire pratiquement depuis 11 500 ans jusqu'à pour culminer vers 9000-10 000 ans, et un deuxième maximum est situé entre 7000 et 8000, on voit aussi une phase minimum entre ces deux maxima, qui correspond, encore une fois, à cette période intermédiaire, à peu près vers 8000 ans. Ici, elle est relativement étendue, ici, dans cet enregistrement, entre 8000 et 9000 ans avant le présent. Et en gros, cette période correspond à une réoxygénation des masses d'eau profondes pendant cette période intermédiaire. On peut suivre cette réoxygénation beaucoup plus directement en mesurant dans les mêmes sédiments les différents métaux traces qui sont sensibles aux conditions redox, encore une fois, qui sont piégées de façon suboxique dans le sédiment. Ici, vous avez des enregistrements de l'arsenic, du vanadium, ici, pour les courbes bleues, à la fois mesurées par XRF et directement sur des mesures beaucoup plus précises par ICP-MS. Mais encore une fois, il est possible de faire des reconstitutions à très haute résolution non destructives à partir des outils géochimiques que nous utilisons. Donc on retrouve en fait les mêmes caractéristiques, globalement, une augmentation de cette matière organique et qui influe aussi sur la préservation de ces métaux traces qui nous renseignent en fait sur les conditions d'oxygénation au fond de la Méditerranée. Voilà, donc beaucoup d'évidence, encore une fois, à la fois à terre et en Méditerranée, qui nous montre en fait qu'il s'agit d'une période très perturbée, dont nous allons essayer de comprendre l'origine avec les essais de modélisation et la comparaison entre les modèles et les données, ce que nous verrons dans les prochains cours. Donc je vais essayer là, de vous résumer et de vous donner quelques conclusions justement sur ces précipitations holocènes et sur cette période humide-africaine. Il est très clair que le réchauffement estival de l'hémisphère nord au début de l'Holocène s'est accompagné d'un changement des pluies, que l'on a eu en fait une intensification et une migration vers le nord de la mousson africaine. On voit de façon indubitable des paléolacs qui montrent en fait une extension très importante jusqu'en Afrique du Nord, jusqu'au nord de l'Afrique du Nord, et pratiquement pour toute la zone saharienne. Plus en fait ces évidences, comme on l'a vu, et encore une fois nous en reparlerons, vont beaucoup plus loin en fait que les essais de modélisation que je vous ai montrés. Il est aussi clair que quand on prend en compte l'ensemble des enregistrements à la fois en mer et à terre, on voit que les transitions à la fois pour entrer dans la période humide africaine, pour en sortir, et notamment pour la phase transitionnelle autour de 8000 ans, sont relativement abruptes pour cette période humide africaine, et que c'est quelque chose qui va devoir être expliqué. On a vu que la fin de cette période humide africaine n'était pas synchrone sur tout le continent africain, qu'on arrivait à distinguer certaines tendances plus précoces à l'est et plus tardives à l'ouest et au sud. Et surtout, une des choses qui est vraiment très caractéristique, c'est qu'il y a une correspondance temporelle entre ces perturbations hydrologiques atmosphériques et l'hydrologie de la Méditerranée qui a été totalement perturbée pendant cette période avec le dépôt de sédiments organiques qu'on appelle sapropelle. Encore une fois, la période de sapropelle, les sapropelles sont périodiques, on les retrouve dans les sédiments océaniques sur des millions d'années, mais ce qui nous intéresse dans le cadre de notre cours, c'est ce dernier épisode appelé Sapropelle 1, qui correspond justement à cette période humide africaine et qui correspond finalement à une stratification des masses d'eau de surface avec, comme on va le voir un peu plus dans le détail dans les prochains cours, une augmentation des pluies et des apports du Nil. Et ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a une certaine corrélation, on va essayer de voir ça plus finement, entre les différentes transitions que l'on peut étudier dans les sédiments océaniques, dans les sédiments de Méditerranée, avec ce sapropelle 1, et la correspondance que nous voyons avec les sédiments à terre continentaux. Et nous considérerons aussi, ça c'est quelque chose qui sera vu dans les deux prochains cours, c'est que tous ces événements hydrologiques et ces fluctuations climatiques ont eu un impact en fait, sur les premières populations qui occupaient la zone, comme nous le verrons dans la suite du cours. Je vous remercie de votre attention.